Éternel notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi pour te dire encore merci pour tous les bienfaits dont nous avons été l'objet depuis ce matin jusqu'à cette heure-ci, Seigneur. Nous n'avons rien mérité, tout n'est que grâce, Seigneur, si nous pouvons nous retrouver encore autour de ta table ce soir. C'est pourquoi, Père, nous ne voudrions pas bouder notre plaisir. Nous sommes très reconnaissants envers, ô mon Dieu, tout ce que toi tu accomplis, tu accompliras et que tu as déjà accompli dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, ce soir, nous ne sommes pas venus pour vendre, ni, ô mon Dieu Père éternel, pour perdre notre temps. Mais nous voudrions, Papa, toi le bon berger, tu as une parole, ô mon Dieu, dont nous avons besoin. Alors que tu puisses, ô mon Dieu, peut nous livrer cette parole, car la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Donc nous avons besoin de cette parole pour continuer notre marche sur cette terre. À toi l'honneur, à toi la gloire. Répands ton esprit, ô mon Dieu. Merci déjà pour avoir commencé avec nous dans les cantiques. Maintenant que tu puisses continuer, ô mon Dieu Père, au moment où tu vas nous servir, ô mon Dieu, ton mets que tu as préparé pour tes enfants. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous te prions dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur de tout mon cœur, mes bien-aimés, ce soir encore. Merci d'avoir encore bénéficié des bontés de l'Éternel et ses compassions qui se sont renouvelées ce matin pour nous qui croyons à la parole, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Alors, je ne dois pas oublier, il y a une requête ici de Marie-Élise. Qu'est-ce qu'elle veut, cette Marie-Élise? Prions pour mon séjour aux États-Unis. 4 mois. Que ça se passe bien. Je quitte ce vendredi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on prie maintenant ou on prie à la fin? Prions maintenant. Seigneur Jésus, toi, tu nous as dit dans ta parole, demandez, tu recevras. Cherchez, tu trouveras. Frappez, on vous ouvrira. Père, nous voudrions que tu puisses activer cette promesse dans la vie de Marie-Élise. Elle est venue devant toi te demander. Alors, c'est une requête précise. Nous voudrions aussi, ô Seigneur, que tu lui accordes une réponse précise. Elle va se rendre aux États-Unis pour ses études pendant 4 mois, Seigneur. Papa, dès le jour où elle prendra l'avion, nous comptons sur toi, Seigneur, que toi, tu puisses garder les départs et son arrivée. Et quand elle arrivera à l'université, que toi, tu sois son soutien, que tu sois son ami fidèle et tendre, Seigneur. Tu seras la seule réponse à tous ses besoins là où elle sera. Elle ne sera pas seule, physiquement. Ses parents resteront ici. Mais toi, le bon berger, tu seras avec elle. C'est pourquoi nous te faisons confiance, Père, que tu lui accordes la réussite pendant ces 4 mois là où elle est en train de partir. Que tu marches devant elle comme tu as marché avec Gédéon devant Madian. Que tu combattes pour sa cause, comme tu as combattu pour David devant Goliath. Nous te faisons confiance et te prions dans les précieux noms et suffisants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Très bien. La fois passée, mes bien-aimés, Paul, dans Romains 7, du verset 14 jusqu'au verset 25, nous a partagé sa frustration par la réalité toujours présente du mal dans un individu. Chaque fois qu'un individu voudra faire le bien, le mal qui est en lui prenait le dessus. Alors, Paul a exprimé sa frustration au verset 25 par une exclamation. Misérable que je suis, n'est-ce pas? Et ensuite, il a posé une question. Qui me délivrera? Qui me délivrera de ce corps de la mort? Parce qu'il s'est rendu compte, tant qu'il sera dans son corps mortel, il aura à lutter contre les principes du péché qui habitent en lui et connaîtra la défaite. Alléluia. Mais à sa question, il a eu une réponse triomphante en disant, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, il a la solution à son problème. La solution à son problème, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand il commence son chapitre 8, nous nous sommes posé la question, mais Paul, tu as été à l'école ou pas? On ne s'exprime pas ainsi. Mais nous avons justifié ça très bien. Quand il dit, il y a donc maintenant, pourquoi il y a donc? Tout simplement, son il y a donc est en train de nous dire ce qui précède. Maintenant que j'ai trouvé la réponse à mon problème et que la délivrance se trouve en Jésus-Christ, il peut maintenant commencer son chapitre 8 en disant, il y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Donc maintenant, plus de condamnation. Pourquoi? Parce que la délivrance du péché est par Jésus-Christ. Du coup, nous sommes placés dans une immunité par rapport à la condamnation. Alléluia. Plus de condamnation. Et au verset 2 de ce chapitre 8, il dira, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Affranchi, c'est-à-dire suggère une certaine libération. Je suis libéré. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est quoi? On a dit, c'est l'esprit de Dieu. Donc ici, au verset 2 du chapitre 8, la loi de l'esprit de vie s'est montrée plus forte que la loi du péché et de la mort, n'est-ce pas? Ici, maintenant, vous connaissez comment agit une loi. C'est un principe constant, c'est-à-dire que les choses se répètent toujours de la même façon. Maintenant, terminé, on a essayé d'expliquer selon la loi des pesanteurs. On a fait tomber le bouquin. À un certain moment, nous avons retenu le bouquin, mais ça ne tombe pas. Pourquoi? Est-ce que la loi de la pesanteur est supprimée? Non, monsieur, la loi de la pesanteur est là, mais il y a une autre loi plus forte qui pèse sur la loi de la pesanteur. Alléluia! Donc ici, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ s'est montrée plus forte que la loi du péché et de la mort. Au verset 3, il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, suivez bien, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Paul affirme qu'il est impossible d'être affranchi du péché par la loi mosaïque. Il était sans force pour libérer du péché à cause de la chair. Maintenant, pour que la justice de la loi soit accomplie en ceux qui marchent selon l'Esprit, Dieu a fait une chose terrible. Il a condamné les péchés. Alléluia. Comment? En envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Pas dans une chair du péché. Alléluia. Mais dans une chair semblable à celle du péché. Et au verset 4, il dira, « Et c'est là enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Et au verset 5, Paul va distinguer deux genres de personnes. Il dit, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Alléluia. La fois passée, on a vu ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Et maintenant, je vous invite à vous lever. J'ai encore du plaisir pour lire le chapitre 8, les quatre premiers versets. Non, les cinq premiers versets. Lisons. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Aujourd'hui, ce soir, nous allons prendre la deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire ceux qui marchent selon l'esprit. Le titre, là derrière, vous pouvez noter, marcher selon l'esprit. Alléluia. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, je voudrais encore vous rappeler ce que j'avais dit autrefois, c'est-à-dire le 22 décembre, concernant les trois aspects, c'est-à-dire les trois aspects ou sphères de l'être. Corps, âme et esprit. Je reviens. Il faut bien les distinguer. Et cette distinction, mon frère, ma sœur, a une importance suprême. Car elle affecte considérablement la vie du croyant. Pour preuve, souvenez-vous de Nicodème, docteur de la loi. Mais il a confondu ce qui appartenait au spirituel et ce qui appartenait au psychique, n'est-ce pas? Il n'a pas pu comprendre ce que le Seigneur lui disait, justement à cause de la confusion. Alors qu'un docteur de la loi, quelle honte! Et le Seigneur lui a dit, « Oh, toi, docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. » Alléluia! Voilà pourquoi j'insiste, il faut bien connaître toutes ces trois sphères, corps, âme, esprit. Il ne faut pas les confondre. Il faut bien comprendre le fonctionnement de chaque sphère. Alléluia. Et si vous entrez dans la confusion, vous êtes foutu. Marchez selon l'esprit. Je voudrais d'abord dire ceci, mes frères et sœurs. On ne va pas aller vite en besogne. La marche selon l'esprit ne s'improvise pas. La marche selon l'esprit, je le répète, ne s'improvise pas. Elle s'apprend. On va appeler trois témoins pour que nous soyons convaincus. La marche selon l'esprit ne s'improvise pas. Elle s'apprend. Premier témoin, Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 20 et 21. Bien noté. La marche, selon l'esprit, ne s'improvise pas, elle s'apprend. On va appeler à la barre trois témoins. Éphésiens 4, versets 21 à 23. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ça va? Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Amen. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Vous voyez? Donc, les croyants sont renouvelés dans l'esprit de leur intelligence, verset 23, c'est-à-dire, ils ne sont plus ignorants. Alléluia! Nous sommes d'accord? Ils ne sont plus ignorants. Leurs pensées ne sont plus vaines. Leur compréhension ne plus obscurcie. Alléluia. Ainsi, ils sont de nouvelles personnes en Christ et par conséquent, ils ne peuvent plus vivre comme des païens. Deuxième personne à la barre, Philippiens 4. Verset 9. Les Philippiens connaissaient très bien Paul. Hein? Il leur dit ceci. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. Paul leur a appris comment il faut marcher dans le Seigneur. Alors, il répète, il dit, « Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Donc, vous devez m'imiter comme moi, j'imite le Seigneur. Alléluia. Troisième témoin, 1 Thessaloniciens 4, premier verset. Viens lire avec moi. Écoutons ce que l'Esprit dit à travers, dans la bouche de Paul. Qu'est-ce qu'il leur dit? Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, nous vous prions. Et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voyez-vous? Et dans les messages précédents, quand Paul arrive à Thessalonique, nous avons vu comment il a prêché, comment il s'est comporté. Il était exemplaire. Il ne regardait pas l'argent. Ce qui l'intéressait, c'est sa vocation, faire son job. Il s'est comparé même à une nourrice, n'est-ce pas? Alors, ce que vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire dans ce monde, ça s'ajoute dans ce monde, dans la marche, c'est dans notre comportement dans le monde, n'est-ce pas? Et comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors avec ces trois témoins, nous sommes convaincus que la marche selon l'Esprit ne s'improvise pas. Ça s'apprend. On dit que tout homme vit pour plaire à quelqu'un, à lui-même, à sa femme, à ses parents, à ses enfants, à son Dieu ou à quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Alors ici, Paul, chez les Thessaloniques, il dit « apprendre comment se conduire et plaire à Dieu ». Paul affirme que pour mener une vie sainte, on doit trouver sa motivation dans l'amour pour Dieu. Ah! Sa motivation dans l'amour pour Dieu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup pensent que la vie chrétienne n'est qu'un ensemble de règles auxquelles on doit obéir. Ou une liste d'interdictions. Non, messieurs. Paul, lui, considérait comme le fruit d'un désir ardent de plaire à Dieu. Alléluia. Et dans cet apprentissage, il faut faire du progrès. Ah oui. Dans cet apprentissage, la Bible nous dit, 1 Thessaloniciens 4, verset 1, la fin du verset 1, de marcher à cet égard de progrès en progrès. On doit observer effectivement celui-ci depuis qu'il est passé à gauche. Nous voyons que sa conduite devient de plus en plus différente par rapport à autrefois. Il s'est fâché facilement, mais maintenant, il faut vraiment aller le chercher plus loin. Il commence à devenir un homme vraiment tempéré. Il ne charge plus comme auparavant. Alléluia. Donc on voit le progrès. Mais depuis que tu confesses dans ton quartier que oui, Bible à la main chaque dimanche, mais tu es toujours la même personne qu'on est en train d'observer du point de vue de ta conduite. Alors, ta Bible sous la main le dimanche sert à quoi? Non, il faut qu'on observe de progrès, petit à petit. Ce n'est pas d'un trait, non. Nous sommes de personnes en construction. Malembe, 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 petit à petit, on doit observer de progrès. Marcher selon l'Esprit. Avant de continuer, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans la lettre circulaire de décembre 2012 à la page 3. Le frère Franck dit ceci. Celui qui se laisse conduire réellement, souligné, réellement par l'Esprit de Dieu, selon Jean 16, verset 13, ou Romains 8, verset 14, vit une vie tout à fait normale dans tous les domaines, tout en prenant au sérieux la préparation et sera participant à l'héritage du salut promis et finalement sera scellé par le Saint-Esprit promis. Vous voyez? Vous voyez? Celui qui se laisse conduire réellement par l'Esprit de Dieu vit une vie tout à fait normale dans tous les domaines, tout en prenant au sérieux sa préparation. Ah oui! Oui! Tu dois prendre au sérieux ta préparation. Tu vas à l'école, ça c'est bien, tout le monde voit que tu vas à l'école. Mais quand tu rentres à la maison, tu dois t'entraîner. Alléluia! Tu dois apprendre à faire tes exercices. C'est comme cela que tu vas progresser en termes d'acquisition de compétences. Sinon, tu n'auras rien acquis. Oui, tu vas à l'école, c'est bien, on le voit. Mais en termes de préparation, tu ne fais rien. Quand tu arrives, tu prends ton sac, allez, dans l'armoire. Et demain matin, et c'est la même chose aussi qu'on observe, le dimanche, on a sa Bible, n'est-ce pas? Bon, le dimanche prochain, on commence à chercher. Mais où se trouve ma Bible? Vous pouvez passer même 5-10 minutes parce qu'on est en train de chercher sa Bible. Ben, on est en train de chercher sa Bible. Pendant toute la semaine, on ne l'a même pas lue. Mais le dimanche matin, puisqu'on doit partir à l'église, on est occupé à chercher la Bible. Ah. Alors ça, je trouve ça très bien. Alors, l'homme qui marche selon l'Esprit, il a été instruit à se dépouiller, eu égard à sa vie passée selon Éphésiens 4, 21-22 que nous venons de lire, n'est-ce pas? Alors, et le messager par rapport à ça dit dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, à la page 7, il dit, paragraphe 254, il dit ceci. Votre vieille nature est morte, la nature du monde, et vous êtes devenu une nouvelle créature. Alléluia. Donc tu as été instruit à te dépouiller, eu égard à ta vie passée. Alléluia. Très bien. Et vos désirs, la vieille vie qui avait un commencement lorsque Dieu souffla la respiration dans vos narines, quand vous êtes né, cette vie de nature charnelle est morte. Ça va? Vous vous êtes dépouillé de votre vieil homme qui se corrompt à chaque occasion. Et Dieu, cette vie de nature charnelle est morte. Elle a eu un commencement et elle a eu une fin. Et elle est morte et a été supprimée à jamais. La vieille nature. Et Dieu est entré avec la nouvelle nature. Alléluia. Alors, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la paix, la patience et la douceur et la gentillesse qui sont entrés et ont pris la place de la malice, de la colère et des inimitiés et de la jalousie, des intrigues et de toutes ces choses. Cela en a pris place quand vous êtes passé de la mort à la vie. Il pose la question, avez-vous vraiment bien compris maintenant? Hein? Avons-nous maintenant bien compris? Très bien. Alors, Paul dit que Ceux qui vivent selon l'Esprit, nous sommes dans notre Romains 8, hein? Et toi, notre Romains 8, il dit, Romains 8, verset 5, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit, qu'est-ce qu'ils font? S'affectionnent aux choses de l'Esprit. » S'affectionner, être attaché, c'est-à-dire s'attache, aspirer à, aux choses de l'Esprit. Question. Qui est l'Esprit alors? Qui est l'Esprit? Jean 4, verset 24, nous dit, il nous dit ceci, verset 24, on a posé la question, qui est l'Esprit? Quand Paul dit, ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Question, qui est l'Esprit? Jean 4, 24 répond, Dieu est Esprit. Alléluia. Dieu est Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Quelles sont à présent les choses de l'esprit? Il est écrit dans Galates 5, 22 ceci. Quelles sont maintenant les choses de l'esprit? Il est écrit dans Galates 5, verset 22. Nous lisons. Mais le fruit de l'esprit, voyez-vous, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donc nous voyons bien ceux qui marchent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Ces choses de l'Esprit, Galates nous les détaille dans son chapitre 5, verset 22. Voyez-vous? C'est dans cette catégorie de choses que nous devons nous retrouver. Maintenant, que signifie marcher selon l'Esprit? Puisque Paul a bien distingué les deux genres de personnes. Ceux qui marchent selon la chair, ils ont leurs affections. Alléluia. Et ceux qui marchent selon l'Esprit. Maintenant, que signifie marcher selon l'Esprit? Mes frères et sœurs, au mieux de ma connaissance d'aujourd'hui, je dirais que cela signifie deux choses. Première chose, marcher selon l'Esprit, ce n'est pas une œuvre. Alléluia. Ce n'est pas une œuvre, mon frère, ma soeur. Mais c'est une marche. Ça veut dire. Les efforts désespérés que je m'imposais lorsque je cherchais dans ma chair à plaire à Dieu ont fait place au repos dans la dépendance de ce que Colossiens dit. Colossiens 1, verset 29. Qu'est-ce que Colossiens dit? Je répète d'abord ce qu'il dit, que marcher selon l'Esprit signifie deux choses. Première chose, ce n'est pas une œuvre, c'est une marche. Les efforts désespérés que je m'imposais lorsque je cherchais dans la chair à plaire à Dieu ont fait place au repos dans la dépendance de ce que Colossiens 1, 29 déclare. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ça va? Ce n'est plus une œuvre. Mais c'est la force de Dieu qui agit puissamment en moi. Alléluia. Deuxième chose, marcher selon l'Esprit, c'est être soumis à l'Esprit. Il y a une chose qui est impossible à l'homme qui marche selon l'Esprit, c'est être indépendant de lui. Il est soumis à l'Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit qui doit avoir l'initiative de ses actes. Et plus ma chair, plus mes pensées, plus ma compréhension, non, messieurs, c'est de cette seule manière que nous pouvons voir la loi de l'Esprit de vie agir librement sur la loi du péché et de la mort. Soumis à l'Esprit, en ce moment-là, quand le Saint-Esprit veut te donner des indications et que tu es obéissant, c'est pour cela, souvenez-vous, qu'on avait dit, notre esprit doit être éduqué. Si notre esprit n'est pas éduqué, nous serons des rebelles quand le Saint-Esprit viendra nous donner des injonctions. Nous n'écouterons pas la voix de notre esprit. Parce que nous sommes des indisciplinés. Alors, en ce moment-là, la loi de l'esprit de vie n'agira pas. Tu vas connaître toujours la défaite. Puisque c'est une loi. Étant une loi, donc chaque fois que tu vas te retrouver dans cette situation-là, tu tomberas. Chaque fois. Mais quand tu es soumis à l'esprit, hein, mon frère, ma soeur, et toi qui parles là, quand tu es soumis à l'esprit, tu seras discipliné. En Christ, il n'y a plus de « je ne puis pas ». Non. Quand tu marches selon l'esprit, il n'y a plus de « non, 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 ça c'est plus difficile pour moi. Je ne puis pas ». Maintenant, qu'est-ce qui a pris place? Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Selon Philippiens 4, verset 13. Ce langage-là, je ne puis pas, a disparu. Ce langage a disparu, pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et à ce sujet, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? À la page 64, le messager dit ceci, paragraphe 104, il dit, certains d'entre vous qui se promènent en disant, eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tout ce « je ne peux pas ». Alléluia. Donc, si ce langage persiste en toi, nous pouvons déduire qu'il y a un souci. Il y a un souci. Et le messager continue. C'est vrai. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux, pour les faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Pas d'excuses. Pour les faire arrêter leur commérage. Chaque fois, tu as des histoires à dire. Quand vous êtes en groupe, tu sais parler de frère Anatole. Tu sais parler de frère Jérémie. Tu as toujours des informations. Mon frère, tu as une mauvaise habitude. Nous allons te lier. Ah, nous allons faire une prière d'autorité pour te lier. Tu as une mauvaise attitude. Alors le Saint-Esprit, quand il vient, c'est lui qui va faire cesser ce commérage-là. Alléluia. Oh oui, c'est à ça qu'il sert à vous donner une vie sainte. C'est pour cela qu'on dit marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit impudique. Mais c'est un esprit saint en vous. Et ce Saint-Esprit vient pour vous rendre saint. Parce que c'est sa nature. Et vous devez avoir la nature de Dieu. Parce que vous êtes fils de Dieu. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Une femme qui dirait, il fait vraiment trop chaud. Il faut absolument que je porte ça. Ça me donne mal à la tête quand je me laisse pousser les cheveux. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. J'ai beaucoup de personnes qui sont comme ça. Hein? Ah, les explications. Bah, pour là. Mais le frère, tu ne comprends pas. Il y a des subtilités et qui t'échappent dans ces... Ah, frère, ça va. Sœur, ça va, il n'y a pas de souci. L'avenir nous dira plus tard. De quoi s'agissait-il au juste? Ah. Chaque fois que je suis en face d'une exigence du Seigneur, je regarde à lui pour qu'il accomplisse ce qu'il attend de moi. Je n'ai plus à lutter, mais à me reposer en lui, comme Colossiens 1, 29 l'a dit. Alléluia. Comme Philippiens 4, 13 l'a dit aussi. Marcher selon l'Esprit. Vous savez bien, mes frères, mes sœurs, le désir de la chair, c'est de conduire l'homme au péché. N'est-ce pas? Mais le soupir de la vie spirituelle, c'est de conduire l'homme à plaire à Dieu. C'est pour cela que Paul disait aux Thessaloniciens, hein? Vous avez appris comment plaire à Dieu. Il faut passer dans l'école du Saint-Esprit. Il ne faut pas être des étudiants rebelles. Non, soyons dociles. Le bon berger, alléluia. Parce que le bon berger, lui, il a toujours des paroles appropriées pour ta croissance spirituelle. Mais maintenant, il faut accepter les remarques, accepter les observations qui sont faites par les bons bergers. Si vous avez toujours des explications, que voulez-vous que le bon berger fasse? Et en plus, il n'est pas dictateur. Il n'est pas dictateur. Il n'est pas dictateur. Quand une observation sort de la bouche du bon berger, tu dois t'asseoir, recule, baisse le bras. Seigneur, parle. Parle. Et ce que tu veux attendre de moi, moi, je m'abandonne entre tes mains. Alléluia. Le soupir de la vie spirituelle, c'est de conduire l'homme à plaire à Dieu. Maintenant, ce que nous haïssons, c'est notre vie. Parce que nous sommes nés dans le péché. il y a la corruption dans notre chair. Alléluia. C'est que nous affectionnons sans réserve, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur. Christ est notre vie. Quand on dit marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire Christ est notre vie. Alléluia. Selon Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Vous me voyez marcher, tout ce que vous voulez, mais non, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Souvenons-nous aussi de 1 Jean 5. Qu'est-ce que 1 Jean 5 nous dit? 1 Jean 5, par rapport à Galates 2, 20. 1 Jean 5, versets 11 et 12. Dit ceci, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, qu'est-ce que vous appelez vie dans votre langage? On va tout simplement observer. Tu t'affectionnes à quoi? Alléluia. Moi, je me mettrai au coin. Vous l'observez seulement. Tes penchants, tes affections, tes aspirations. Alléluia. Selon ce que dit Jean, nous pouvons dire que Christ, c'est le seul don, alléluia, que Dieu nous a fait pour répondre à tous nos besoins. Hé! Hey! Voilà, moi là, je suis impatient. Moi là, je suis colérique. Moi là, je suis orgueilleux. Frère Albert, oui, mon frère, oui, ma soeur. Est-ce que vous pouvez passer à la maison? Je dis, oui, je passerai. Frère, si je vous ai appelé, c'est pour que nous puissions prendre un temps de prière pour demander à Dieu qu'il puisse me donner la patience, qu'il puisse me donner l'humilité, qu'il puisse me donner la tempérance. Frère Benoît, je suis désolé. Je ne prierai pas avec toi. Pourquoi, frère? Parce que ta demande est mal formulée. Ah, mais oui. Quand la demande est mal formulée, qu'est-ce que vous voulez recevoir? Non. Donc, tu dois d'abord apprendre à bien formuler ta demande. Je viens de dire ici, Christ, c'est le seul don que Dieu nous a fait pour répondre à tous nos besoins. Frère, vous n'avez pas besoin de la patience, je suis désolé. Vous n'avez pas besoin de l'humilité, je suis désolé. Vous avez besoin de Christ en vous. Alléluia. Vous avez besoin de Christ en vous. Et Christ, c'est lui le fruit. Le fruit, c'est lui. Qui va produire toutes les saveurs dont on parle ici. Priez pour que j'aie la patience. Je ne perdrai pas mon temps pour ça. Hein? Ah, mais oui, mais soyons clairs par rapport à ça. Non. Tu as besoin de Christ, le seul don, qui est la réponse à tous nos besoins. Quand Christ viendra s'installer, tu feras des progrès. Progrès, 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 comme on a lu. N'est-ce pas? Vous voulez que La grâce de Dieu soit détaillée en morceaux de patience là-bas, morceaux d'humilité là-bas, un morceau de douceur là-bas. Non, monsieur. On ne va pas déterrer la grâce de Dieu. Ah, mais quoi? C'est un problème de compréhension. Hein? Vous venez à l'école, mais la compréhension parfois est... Moi, merci déjà parce que je me suis déplacé. Je vous ai écouté, frère Benoît. Mais je te ferai comprendre que tu n'as pas besoin de patience. Et tu vas encore me trouver d'un... Mais frère, il est toujours compliqué. Non, je ne suis pas compliqué. C'est question un peu de... Qu'on s'harmonise, hein, qu'on se mette d'accord, frère Benoît. Mettons-nous d'accord, accordons-nous. Tu as besoin de quoi? De la patience, hein? De l'humilité, de la douceur, de la joie. Mais non! Le seul don que Dieu nous a fait pour répondre à tous nos besoins s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Reçois-les. Il frappe. Si tu entends, ouvre-lui la porte. Il entrera chez toi. Il soupera avec toi et toi avec lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ça, le problème. Alors, pour terminer, marchez selon l'esprit. Quiconque tient à marcher par l'esprit doit pouvoir discerner l'état dans lequel se trouve son esprit. Ah, d'abord, je l'ai d'abord ça. Tu dois apprendre à discerner l'état dans lequel se trouve ton esprit. Si il occupe tranquillement la place qui lui est assignée et satisfait aux exigences du Saint-Esprit. Ah! Un esprit qui vole de partout. Non. Il est important de discerner l'état dans lequel se trouve ton esprit. Mon frère, ma soeur. Ton esprit, par exemple, peut être bloqué. Alléluia. Ton esprit peut être bloqué. Tu n'éprouves plus le besoin de venir à l'assemblée. Alléluia. Tu ne manifestes aucun intérêt aux choses de l'assemblée. Tu ne manifestes aucun intérêt de lire la Bible. Alléluia. Tu te montres timide. Tu cherches à te cacher chaque fois après l'église. Ah non. Moi, je ne veux pas de problème avec les frères. Hein? Voyez-vous? Tu aimes te tenir en réserve. Là, avec une bonne lecture, un bon discernement, ton esprit est bloqué. Alléluia. Ton esprit est bloqué par une attaque. Ton esprit peut être empoisonné. Alléluia. Tu es orgueilleux. Tu ne pardonnes pas. Tu es triste. Tu es affligé. Tu es découragé. Alléluia. En ce moment-là, il faut identifier la source de toutes ces sensations. Amen. Il faut identifier la source de toutes ces sensations. Sinon, comment le Saint-Esprit pourrait se servir de ton esprit quand il est dans cet état? On est d'accord? Comment le Saint-Esprit pourrait se servir de ton esprit qui est dans cet état-là? Un esprit empoisonné. Un esprit bloqué. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit ceci, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Vous êtes en train d'éteindre l'esprit. L'esprit ne fonctionnera pas. Éphésiens 4, 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et vous voyez au-dessus ce qu'il y a, ce qui attriste le Saint-Esprit de Dieu. Les disputes, les ceci, Alors, l'esprit qui se trouve dans cet état-là, le Saint-Esprit, ne viendra pas l'utiliser. Non. Il faut d'abord dégager toutes ces choses. Tu as des choses à régler avec tes frères, avec tes soeurs, va d'abord les régler. Comme ça, ton esprit est disposé à écouter les bons bergers. Ah oui! Vous savez quoi? L'esprit de l'homme est comme une ampoule électrique. En contact avec le Saint-Esprit, il rayonne. Quand il est libre, ça va? Quand il est libre, quand il n'y a pas d'encombrement sur les réseaux, l'esprit rayonne. Si le courant est coupé, l'esprit s'enveloppe de ténèbres. Plus rien ne va. Et tu es toujours ici, hein? Tu viens toujours ici, mais le progrès, on ne voit rien, tout simplement parce que l'esprit est empoisonné, l'esprit est bloqué. Hein? Prenons conscience de toutes ces choses et libérons-nous. Que le canal soit libre, les réseaux soient libres pour que les informations passent très bien. Quand tu téléphones, il n'y a pas de coupure. Hein? Quand on téléphone au Congo, la connexion n'est pas bonne, les réseaux. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu captes les choses à moitié, des demi-vérités. Oh, mais non, le frère François dit ça à l'église. Hein? Tu touches seulement le serpent au milieu. Et la tête et la queue. Qu'est-ce que tu en fais? Tu ne t'appropries que du milieu. La tête et la queue. Parce que le réseau est perturbé. Tu ne veux pas toucher la queue, tu sais pourquoi. Tu ne veux pas toucher la tête, tu sais pourquoi. Le réseau est perturbé. Libérez les réseaux, mon frère. Pourquoi? Nous devons nous souvenir de ce que Proverbe 20 dit. Proverbe 20 dit ceci, libérez les réseaux. Proverbe 20, 27 nous dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Voyez-vous? Le souffle de l'homme, donc ton esprit là, c'est une lampe pour l'Éternel. C'est là où l'esprit vient, te donne des instructions. Mais si la lampe n'éclaire plus, la lampe est sous la table, à quoi sert la lampe? On n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table. Alléluia! Quand on allume la lampe, c'est pour qu'elle puisse éclairer l'espace qui est là. Dégagez les réseaux. Marcher selon l'esprit exige la peine, je dis bien, la peine de mort de toutes nos idées, de toutes nos pensées et de tous nos désirs personnel. Sinon, on marchera selon la chair. Alléluia. Oh, quand je songe à l'amour de Jésus, tout ce qu'il a fait pour moi, alors je